France Culture. France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Mi-novembre, l'IFOP a fait paraître une étude portant sur le rapport à l'islam des musulmans de France. L'un des chiffres les plus commentés, 38% des musulmans approuveraient tout ou partie des positions islamistes, un résultat dont la formulation et la diffusion ont alimenté tensions et interprétations antagonistes. En parallèle, un autre sondage portant cette fois sur l'antisémitisme à l'université, commandé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, a été publiquement désavoué par les présidents d'universités qui dénoncent une enquête méthodologiquement fragile et politiquement inflammable. Alors, comment les sondages peuvent-ils se saisir de sujets politiquement clivants? Les sondages alimentent-ils les tensions identitaires? Comment décrire et mesurer une réalité sociale sans risquer l'instrumentalisation politique et médiatique de ces résultats? Deux invités pour en débattre ce soir. François Cros, bonsoir. Vous êtes directeur du pôle politique de l'IFOP, l'Institut français d'opinion publique. Vous êtes par ailleurs enseignant en usage et méthodologie des sondages au département de sciences politiques de l'Université de Nanterre. Face à vous, Alexandre Désé. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université de Montpellier, chercheur au CEPEL, le Centre d'études politiques et sociales. Vous avez fait paraître l'ouvrage 10 leçons sur les sondages politiques en 2022. C'était chez De Boeck Supérieur. Merci à vous deux d'être présents ce soir dans Question du soir. Et l'on va parler d'identité et de religion, mais pour commencer, une question plus générale, François Cros. Les sondages ont-ils une utilité en démocratie, et si oui, laquelle?
Alors peut-être de cadrer certains débats inflammables, hein, et on a notamment aujourd'hui tout un discours autour du mythe du grand remplacement qui voudrait qu'il y ait une islamisation rampante de la France. D'ailleurs, notre très estimable collègue d'Ipsos en 2016 avait demandé aux Français combien ils croyaient qu'il y avait de musulmans, et ils pensaient qu'en moyenne il y avait 31% de musulmans. Dans cette enquête qui repose sur un échantillon extrêmement solide d'environ 15 000 personnes, nous remettons, je dirais, la mosquée au milieu du village et nous sortons un chiffre de 7% de personnes âgées de 15 ans et plus, sachant que l'IFOP se refuse, compte tenu de la méthodologie employée, de faire des extrapolations en millions qui, eux aussi, peuvent parfois servir tout un certain discours.
Cadrer les débats inflammables, c'est cela la fonction du sondeur en démocratie, selon vous, Alexandre Désé?
Alors, on peut avoir un autre point de vue. En fait, la question des rapports entre sondage et démocratie, c'est une vieille question qui s'est posée dès les lendemains de la création des premiers instituts en 1935 aux États-Unis, puisque l'un des créateurs du premier institut, c'est George Gallup, et il réussit le tour de force de prédire la réélection de Roosevelt en 1936 contre les techniques de vote de paille qui étaient utilisées à l'époque par les magazines. Et de fait, on s'inquiète de l'apparition d'un outil susceptible de voir dans l'avenir politique, et certains vont interpréter la création de cet instrument comme une potentielle menace, en fait, pour la démocratie. Alors les sondeurs vont développer tout un discours, en fait, qui va essayer de rattacher les sondages à la démocratie. Donc Gallup disait notamment, les sondages, ce sont des référendums sur échantillons, c'est-à-dire ça permet en gros à la population, aux citoyens, de s'exprimer en dehors des élections. Et puis ce discours a été repris également par des politistes français comme Alain Lancelot qui a travaillé également, je pense, avec l'IFOP à une période. Et Alain Lancelot disait, bah voilà, les sondages participent de la sélection des candidats. Donc ça c'est le discours pro-démocratique des sondeurs. Mais effectivement, il y a ceux qui considèrent que, comme Maurice Druon dans les années 70, qui considère que les sondages constituent plutôt une pollution pour la démocratie. Et donc c'est ce qui a un peu nourri le discours, une partie du discours critique en tout cas sur les sondages. Donc on peut avoir des points de vue très différents.
François Cros, vous souhaitiez réagir?
Par rapport à la démocratie, que comme vous le savez, dans toutes les dictatures comme la Chine ou la Russie, il n'y a pas d'institut de sondage libre, bien sûr. Et exemple, au fait, typique, la dernière élection du pape a fait l'objet de tout un ensemble de fantasmes sur qui étaient les favoris. Et à la fin, le gagnant a été de loin, très loin de tous ceux qui avaient été mis en avant par les soi-disant experts. Donc, au fait, ça permet quand même, que je vous dis, d'avoir des données de cadrage auxquelles le citoyen électeur peut se référer, même si, bien sûr, tout critique est légitime.
Alors, demandons-nous d'où viennent les sondages qui les commandent, qui les commanditent, en prenant pour exemple ce sondage qui a apparu le 18 novembre. L'IFOP a pu publier une étude de 60 pages interrogeant 1005 musulmans français. C'est un sondage qui a été commandité par le mensuel Écran de veille, un mensuel qui vise, je le cite, à résister au fanatisme. Alors je suis allé sur le site de ce mensuel et j'ai pris quelques grands titres justement qu'il utilisait. Pour son numéro de décembre 2023-2024, nazi-islamisme, l'antisémitisme d'obédience islamisme. Le numéro de juin 2023, frères musulmans en Espagne à la conquête du paradis perdu. Mai 2023, y a-t-il une vie après l'islamisme? Et le numéro de novembre de cette année, la France à l'épreuve de l'entrisme islamiste. François Cros, comment choisit-on dans le fond un commanditaire? Est-ce que vous les acceptez tous?
Non, bien sûr, l'IFOP, la plupart des médias avec lesquels on travaille sont souvent marqués politiquement. En l'occurrence, c'est un média en tout cas qui se présente dans la tradition des médias arabes laïques de gauche. Ils ont notamment lancé une chaîne de télévision qui, en tout cas, occupe ce créneau et qui a clairement fait du combat contre les fondamentalismes et principalement islamiques son cheval de bataille. La rédaction, c'est Martine Gozlan, une ancienne de Marianne, des collègues, notamment Imel Razaoui, vous avez notamment Roland Jacquard ou Nora Bussini qui viennent du Point. En tout cas, on n'a pas des gens qui, pour nous, sont des gens qui seraient marqués à l'extrême droite. Même si, clairement, leur combat contre l'islamisme, qui est, je vous rappelle, marqué à l'extrême droite. Je veux dire, les salafistes dans une assemblée égyptienne, ils sont situés à l'extrême droite de l'échiquier politique. Les fréristes sont juste à côté. Donc combattre ces mouvements d'extrême droite n'est pas pour nous, en tout cas à l'IFOP, quelque chose de disqualifiant, à moins qu'on soit soi-même d'extrême droite et qu'on n'aime pas critiquer ce type de mouvement obscurantiste. Mais en tout cas, pour revenir exactement à votre question, l'IFOP travaille par exemple pour Fakir, pour l'Humanité, pour Politis, pour la CGT, tout un ensemble d'acteurs qui sont aussi marqués très à gauche et qui ne partagent pas du tout les lignes de notre commanditaire actuel. Et à chaque fois, nous faisons juste attention, notamment à ce que l'échantillon et les formulations de questions soient irréprochables. Et comme je l'ai déjà expliqué, en l'occurrence sur cette enquête, la quasi-totalité, à deux exceptions près, des questions sont des reprises d'anciennes études qui ont été reprise afin de voir les évolutions.
On va revenir évidemment sur l'administration du sondage et la formulation des questions, mais sur le commanditaire, un mot Alexandre Désé. Est-ce que, dans le fond, les instituts de sondage devraient parfois plus ou moins sélectionner les commanditaires de leurs propres études?
Tout d'abord, ils sont libres de le faire ou pas, mais dans le cas de l'enquête qui nous intéresse, l'IFOP effectivement travaille avec un certain nombre de commanditaires, mais il a quand même des relations privilégiées avec des médias qui penchent plutôt à droite, le Figaro, Valeurs Actuelles, entre autres, pour ne citer que la presse. Et on sait aussi quel usage, quelle instrumentalisation ces médias ont pu faire de l'enquête que l'IFOP a sorti. Donc c'est jamais simple de la relation. Institut commanditaire est jamais simple et les instituts ont une marge de manœuvre qui est relativement limitée dans les demandes des commanditaires. Donc ça c'est une difficulté du travail qu'il ne faut pas sous-estimer. Mais par exemple, là, on peut considérer que dans le sondage qui a été fait par l'IFOP, il y a quand même un certain nombre d'éléments qui prêtent directement, en fait, à instrumentalisation politique. C'est-à-dire, c'est pas simplement les médias qui sont responsables de l'interprétation qu'on va faire du média. C'est également ce que fabrique l'institut en tant que tel. Je pense que sur ce sondage en particulier, il y a quand même un certain nombre de remarques qui peuvent être adressées à l'institut.
On va revenir évidemment encore une fois à l'administration des questions, mais une réaction, François Croche, c'est ce que dans la masse des études politiques que vous produisez, accompagnez, est-ce que vous penchez à droite malgré tout, comme l'explique Alexandre Désé?
On travaille par exemple beaucoup pour des think tanks comme la Fondation Jean Jaurès. Je vous disais qu'on travaille pour l'Humanité, pour Politis, pour Fakir, pour des associations LGBT dont moi je suis notamment spécialiste sur ces questions. Donc je considère que nous, notre institut, contrairement, et je vous dis très clairement, c'est un modèle qu'on rejette, contrairement au modèle américain, où les instituts sont forcément alignés sur un parti, nous, à l'IFOP, nous refusons ce type d'alignement et nous travaillons avec tous les courants politiques.
Je voudrais vous faire entendre une archive assez stupéfiante, je dois le dire. Elle date d'octobre 1989. Elle porte sur le port du voile, justement, et une réaction, celle d'une sociologue que l'on connaît bien, Dominique Schnapper.
Nouveau chapitre, nouveau sondage. Sondage Ipsos, publié ce matin par le Journal du Dimanche. 72% des adolescents interrogés ne trouvent pas choquant qu'on affirme son appartenance religieuse par des signes extérieurs. En d'autres termes, ils sont favorables à l'autorisation du port du voile à l'école. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Face à la réalité, ils réagiraient peut-être autrement. C'est en résumé l'analyse de la sociologue Dominique Schnappers, directeur de recherche à l'Institut des hautes études en sciences sociales. Elle est interrogée par Patrick Janton.
Les jeunes tiennent le discours de la tolérance. Tout le monde a tous les droits, tout le monde peut faire ce qu'il veut. Ils sont très désidéologisés et le combat pour la laïcité leur paraît probablement tout à fait abstrait, apparemment. Cela dit, c'est ce qu'ils disent et ils savent aussi que, comme dans tout sondage, il faut donner la bonne réponse et la bonne réponse est tolérante. La bonne réponse entre guillemets.
Pourquoi cette analyse vous fait-elle sourire et rire, Alexandre Désé ?
Rire pas trop et sourire parce que c'est un reportage qui aurait pu être fait hier en fait. Ce qui m'a fait sourire, c'est la permanence des débats qui structurent la vie politique française. Enfin, j'ai pas l'impression qu'entre 89 et aujourd'hui, en ce qui concerne la place des sondages, l'interprétation qu'on peut leur donner, leur usage, on a fait beaucoup de progrès en fait. C'est ça qui me faisait rire.
Au-delà, il y a des bonnes réponses. Les personnes sondées, les personnes interrogées se disent on attend de moi une certaine orientation, une certaine manière de répondre, et déjà en cela, il y a une forme de biais induit par la forme du sondage ?
Oui, c'est ce qu'on appelle le biais, entre autres, de désirabilité sociale, c'est-à-dire que les répondants se conforment à ce qu'ils pensent être juste ou bien socialement pour eux de répondre. C'est un biais relativement connu qu'on peut contrôler dans les enquêtes, mais effectivement, enfin le désavantage des enquêtes quantitatives, c'est qu'elles ont tendance à enregistrer non pas des pratiques mais des discours sur les pratiques, donc on sait pertinemment que les individus adoptent des stratégies de réponse qui sont très variables en fait face aux questions qui leur sont posées, a fortiori quand on leur pose des questions qui sont compliquées, difficiles, auxquelles ils n'ont pas forcément de réponse.
Un mot, François Cros, sur la méthode utilisée dans le cadre du sondage qui nous intéresse aujourd'hui, sondage qui a paru, je le rappelle, à la mi-novembre et qui porte sur le rapport à l'islam des musulmans de France. Quelle méthode avez-vous utilisée pour ce faire ?
Comme vous le savez, depuis 1872, nous n'avons plus, en tout cas en France métropolitaine et hors Alsace-Lorraine, de données de religion dans les enquêtes de l'INSEE. Et donc, dans ces conditions, nous avons fait un échantillon national représentatif d'un peu moins de 15 000 personnes, au sein duquel on a pu isoler les personnes se disant de religion musulmane. Une question qui est cadrée notamment par le CEVIPOF, la SOFRES, depuis des décennies, c'est-à-dire avez-vous une religion et si oui, laquelle? Et ensuite, nous listions les personnes. Nous avons donc pu ainsi mesurer le poids des différentes religions en France, qui malheureusement n'existent pas, puisque il n'y a pas de données de quatre âges en population générale et de manière exhaustive. Et donc, la LIFOP vient suppléer un déficit de la statistique publique que nous déplorons, compte tenu notamment de tous les fantasmes qui sont exploités sur le sujet. Et parallèlement, nous avons fait une enquête par téléphone, puisque, comme vous le savez, par téléphone, ça permet de couvrir tout un ensemble de publics qui sont en général sous-représentés dans les access panels en ligne, notamment les personnes d'origine étrangère, les personnes qui maîtrisent mal la langue française, les personnes qui ont un faible niveau socio-culturel. Donc grâce à ça, on a une couverture sociologique beaucoup plus robuste. Et en plus, je vous dis, quand on fait des enquêtes en ligne, les gens, comme le disait très bien notre invité, ils sont beaucoup plus radicaux, il y a moins d'effets de désirabilité. Donc on sait généralement que cette même enquête, nous l'aurions posée par Internet, vu qu'il n'y a pas d'enquêteurs, ils auraient souvent, sans doute, je dis sans doute, eu des positions plus radicales.
Alexandre Désé, vous paraît-elle robuste cette méthode employée dans le cadre de ce sondage ?
Alors, moi, je serais évidemment beaucoup plus critique que François Cros. Il y a un vrai problème qui est juste de souligner, c'est que en France, on ne pose plus la question de la religion depuis les débuts de la Troisième République. La loi informatique et liberté de 1978 interdit le recueil de données à caractère personnel qui vont révéler des dimensions identitaires de type ethnique, religieuse ou raciale des personnes interrogées. Tout cela rend impossible, quasi impossible en fait, la réalisation d'enquêtes quantitatives de qualité sur les différentes populations religieuses. Donc c'est très embêtant parce qu'aujourd'hui on ne sait pas exactement effectivement combien il y a de musulmans, juifs, catholiques, protestants en France. Heureusement, les instituts de sondage et la statistique publique peuvent obtenir des dérogations pour aller sonder ces populations, mais on est sur des chiffres très approximatifs, en fait, puisque là, par exemple, l'IFOP nous dit qu'il y a 7% de musulmans en France, mais l'INSEE dit qu'il y a 10%. L'IFOP nous dit qu'il y a 48% de catholiques en France, mais l'INSEE nous dit 29%. 29%, 48%, évidemment, là, on est quand même sur des écarts qui sont relativement importants. Alors, les questions qui permettent d'enregistrer ces réponses sont pas les mêmes. Exactement, mais leur différence n'explique pas en fait de tels écarts. Alors un dernier point là-dessus qui est important, c'est que très concrètement, on ne peut pas faire d'échantillons représentatifs de cette population puisqu'on ne connaît pas, un, son volume, et deux, sa structuration sociodémographique. Donc il faut reconnaître la difficulté à laquelle se trouvent confrontés les instituts, c'est certain, hein, en l'absence de statistiques officielles, mais il faut également admettre qu'on est sur des échantillons qui, d'emblée, en fait, présentent une fragilité. Et donc, cette fragilité, il faut la rappeler, parce que elle devrait être au fondement même de la très grande prudence qu'on devrait prendre dans l'interprétation des résultats des enquêtes sur les catholiques, les musulmans, les juifs, etc.
François Cros, vous la reconnaissez, entre guillemets, cette fragilité sur cet écart observé par Alexandre Désé, 7% de musulmans en France selon l'IFOP, 10% selon l'INSEE.
Alors, il y a un énorme problème, puisque la donnée, l'enquête de référence auquel fait référence Monsieur Désé, c'est l'enquête Théo de l'INED et de l'INSEE.
Trajectoire et origine.
Voilà. Qui n'est pas faite pour mesurer le fait religieux en France, et qui surtout, je crois qu'il l'a oublié, et à la base exclut les personnes âgées de plus de 50 ans, et aujourd'hui exclut dans les faits plus de 20 millions de Français âgés de 60 ans et plus. Or, c'est quand même chez les personnes de plus de 60 ans qu'on a encore la masse des croyants en France. Est-ce que Monsieur Désé se permettrait d'analyser une étude du CEVIPOF sur le corps électoral français si on avait exclu 20 millions d'électeurs de plus de 60 ans, alors qu'il sait très bien que ce sont eux le gros des votants? Ce n'est pas possible. Donc, cette enquête de l'INED n'est pas du tout en population générale. Elle a été cadrée pour mesurer les discriminations, et pour ça elle est très bien, et elle n'est pas comparable car elle oublie une partie des gens. Par ailleurs, les questions ne sont pas les mêmes, il y a notamment en fait des questions ouvertes sur la mesure de la religion et par exemple sur la mesure du port du voile, qui font que ces indicateurs ne sont pas comparables. Monsieur Désé sait très bien que quand on ne compare pas une question fermée à une question ouverte, et pour revenir encore sur la critique qui nous est faite d'extraire une sous-population de musulmans quand on n'a pas de données. Mais c'est la seule manière la plus solide qui existe quand on n'a pas de données statistiques. D'ailleurs, l'INED elle-même, quand ils font, je suis spécialiste des questions LGBT, une grosse enquête sur les minorités sexuelles de genre, eh ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont pas de stats sur les LGBT. Eh ben, ils les extraient d'un échantillon plus large. C'est exactement ce qu'on a fait pour les musulmans.
Alexandre Désé, est-ce que, dans le fond, là, les sondages sont plus représentatifs que les études menées par l'INSEE, par l'INED, par d'autres?
Alors c'est une très bonne question. Je préférerais que ça soit Vincent Thiberge qui participe à la réalisation de ces enquêtes qui répondent à ma place. Mais on pourrait pendant des heures en fait jouer argument contre argument. Mais c'est ça qui est intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est au moins de pouvoir échanger. Donc je vais rappeler qu'un seul chiffre. Par exemple, la dernière enquête de l'IFOP se base sur 1000. C'est ça, à peu près 1000 personnes de confession musulmane.
Un peu plus de 1000 personnes, 1500 personnes.
Extrait de 14 000. Il y a beaucoup de sondages qui ont été faits par l'IFOP dans le passé qui étaient basés sur une taille d'échantillon beaucoup plus faible, hein, d'accord, 500 à peu près. Et le recueil se faisait par ailleurs en ligne. Et ce recueil en ligne, François Cros en a rappelé tout à l'heure. Les limites. Simplement, par exemple, l'enquête qui a été citée, Trajectoire Origine, elle se base sur un échantillon non pas de 1000 personnes de confession musulmane, mais 7400. Alors, ça change un petit peu la donne. Donc, j'aurais tendance, là, effectivement, non pas à rejeter complètement ce qui ressort de l'enquête qui a été réalisée par l'IFOP, mais plutôt, effectivement, à m'en remettre aux enquêtes qui sont faites par l'INED en collaboration avec l'INSEE.
Je répondrai quand même sur
cette question. En quelques mots, François Cros, parce que je voudrais qu'on avance.
La Théo n'est pas un échantillon national. Il y a 4 sous-échantillons, essentiellement des personnes migrants, descendants de migrants ou des dom-toms. Elle n'est en rien. Les 7000 musulmans que vous comparez ne sont absolument pas représentatifs à l'équivalent de nos, de, des musulmans que nous avons interrogés. C'est un patchwork. Si on prend des musulmans qui sont tous dans un foyer Sonacotra, qu'on les rassemble, il y en a peut-être 7000, mais ils ne sont rien représentatifs des musulmans français.
Alors un mot sur le chiffre qui était un peu partout dans la presse ces dernières semaines. Je le rappelle, 38% des musulmans approuveraient, je cite, tout ou partie des positions islamistes. Je suis allé voir l'étude sur le site de l'IFOP, qui est par ailleurs disponible à tout un chacun. La question était la suivante. Vous-même, quelle est votre opinion sur les islamistes? Diriez-vous que vous approuvez la plupart de leurs positions? 8% répondent que oui. Vous approuvez seulement quelques-unes de leurs positions? 30% répondent que oui. Vous comparez ensuite ces chiffres à d'autres chiffres qui datent de 1998. Et là, on réalise qu'en 1998, l'échantillon n'était pas le même, puisqu'il y avait environ 500 musulmans, un peu plus de 500 musulmans qui étaient interrogés. Les termes non plus n'étaient pas les mêmes, puisque dans l'enquête de 1998, le terme utilisé pour islamiste était intégriste. Peut-on donc, François Cros, comparer ces deux années, 2025 et 1998, d'une façon robuste?
Alors, c'est très transparent, vous pourrez l'admettre quand
absolument,
même.
Absolument, c'est la note.
D'ailleurs, on a
c'est
dit...
écrit en tout petit,
hein, non, faut pas mettre une paire de lunettes. Il y a écrit 38% des Français approuvent tout ou partie des positions, alors qu'ils étaient deux fois moins nombreux à partager les positions des intégristes en 1998. C'est en gros, c'est en vert.
Mais sur la méthodologie, notamment, les 500
personnes... Il y a trois fois, c'est indiqué trois fois, d'abord sous la date, intégriste, dans le texte et en petit gris. Là, je vous l'accorde, mais l'indiquer trois fois n'est pas... est quand même une forme de transparence totale, et nous avons bien mis les choses. Pourquoi ? N'importe quel expert, allez les voir, n'importe quel expert vous dit que le terme d'intégriste n'est plus utilisé aujourd'hui dans le langage courant chez les Français musulmans. On ne peut pas utiliser ce terme qui vient à la base de la sociologie religieuse catholique, parce que c'est un terme très habituel pour observer les catholiques. On n'allait pas reprendre un terme. À ce moment-là, qu'est-ce qui serait passé? Vous, en face de moi, vous auriez dit, François Cros, vous avez utilisé un terme qui n'est pas adapté pour qualifier les musulmans. Tout le monde dit les islamistes. Donc, il faut quand même savoir un petit peu ce que vous voulez. Quand nous, on s'adapte...
Vous parlez pour moi. Ce que je pense simplement, c'est que la connotation des termes n'est pas la même. Intégriste, c'est connoté d'une manière extrêmement négative, beaucoup plus qu'islamiste.
Alors, ça, c'est votre choix. Je vous dis juste que, à ma connaissance, et d'après tous les experts qu'on a pu consulter dans la réalisation de ce sondage, tout le monde nous a dit que le terme à l'époque, et c'était le monde des religions, hein, c'était pas un journal d'extrême droite qui avait qualifié cette, qui avait créé avec nos confrères de CS à cette question. Et donc, nous, on a comparé les choses entre l'intégrisme musulman en 98 et l'islamisme d'aujourd'hui. Et je vous défie aujourd'hui de trouver des gens sociologues qui utilisent le terme intégriste pour mesurer. Tout le monde utilise le terme islamiste. Et d'ailleurs, sur ce chiffre que vous mettez en doute et qui est de 38%,
je pose la question.
Il a été mis en doute, pas par vous. Je suis entièrement d'accord avec vous. À la question suivante, où cette fois-ci on définit concrètement les différents courants islamistes, frères musulmans, salafistes, wahhabistes, etc. À la fin, quand on mesure un peu ceux qui se sentent proches d'au moins de ces mouvements, on a 33%. C'est 5 points de moins et ça a été beaucoup plus précis. Là, on est beaucoup plus précis. On leur a dit concrètement, est-ce que vous êtes proche d'au moins de ces courants? Donc on passe de 38 à 33. On est entièrement d'accord avec vous. Le terme n'était pas défini dans cette question, la première question dont je vous parle. Donc bien sûr, c'est sujet, mais dans la mesure où on cherchait une comparabilité où il n'y avait pas de définition, nous ne l'avons pas fait. Et je vous dis que cadrer et définir un mouvement, c'est en lui-même un objet de critique. Et à ce moment-là, on nous aurait critiqué parce qu'on en avait mis une définition qui aurait forcément été critiquable.
Alexandre Désé.
Bon, je pense qu'il est important de souligner le fait que, encore une fois, les instituts rencontrent plusieurs difficultés importantes, vraiment majeures, dans l'appréhension sondagère de ce type de population. Mais je pense également qu'il est extrêmement important de faire le travail qu'on fait là, qui est le travail de déconstruction, en fait, des modalités de production des résultats. C'est ce qui n'est jamais fait, en fait. Les résultats sont... partent immédiatement en fait dans un flux médiatique impossible qu'on peut pas arrêter. Pour revenir sur ces deux questions, 38% effectivement déclare approuver tout ou partie des positions. Mais là, on pourrait dire une première chose, c'est que tout ou partie, c'est pas la même chose. Ceux qui ont répondu vous approuvez la plupart des positions, vous approuvez seulement quelques-unes des positions, c'est pas les mêmes réponses. Si la fonction d'un institut de sondage, c'est d'accorder de l'importance à la parole des répondants, là, on se dit qu'il y a un problème. Ensuite, la question qui a été soulevée par un certain nombre de mes collègues, vous-même, quelle est votre opinion sur les islamistes ? Islamistes, ici, le terme est extrêmement vague, en fait. On peut imaginer qu'il y a autant...
Leur position.
Votre opinion sur les positions des islamistes, c'est ça ? Oui. Alors, ça change pas grand-chose au problème. C'est qu'est-ce qu'on doit entendre par islamisme ? Ou par islamiste ? Et on peut imaginer qu'il y a autant de conceptions possibles de ce que c'est que l'islamisme que de répondants. Pareil, de quelle position on parle ? Parce que ça, c'est un résultat qui est extrêmement important dans votre étude. En fait, on se rend compte qu'on pose la question, mais que les gens connaissent pas grand-chose à l'islam, en fait. Quoi. Et ça, ce problème de méconnaissance des phénomènes sociaux, politiques, économiques sur lesquels on interroge les gens, c'est un problème structurel, récurrent, en fait, des enquêtes sondagères. Je vous donne deux résultats qui sont tirés de cette enquête. 36% des musulmans interrogés ne connaissent pas le wahhabisme. 42% ne connaissent pas le tablik. Et moi, j'ai une étudiante, j'ai fait cours la semaine dernière sur ce sondage, je voudrais remercier l'IFOP parce qu'il alimente mes cours maintenant. J'ai fait cours sur ce sondage la semaine dernière, j'ai deux étudiantes qui portent le voile dans mes encis, dont une qui est venue me voir à l'intercours pour me dire « Mais monsieur, je ne sais pas ce que c'est les frères musulmans. » Elle est en deuxième année de sciences politiques dans une formation d'excellence. Donc, il y a en quelque sorte une...
En l'occurrence, pardonnez-moi, il est possible dans le sondage de le dire, ne connaît pas 9%. Il est possible donc de cocher la case et de concéder qu'on ne connaît pas les frères musulmans.
Oui, mais ça nous renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que, enfin, quitte à répondre quelque chose, les gens préfèrent quand même répondre quelque chose que ne rien répondre.
François Cros.
Vous citiez Vincent Tibère, qui est une référence. Tibère, qui est une référence en matière. Vincent, qui est une personne qu'on estime beaucoup à l'IFOP, dirige un baromètre sur le racisme pour la CNDH, qui est un baromètre de référence. Dans cet observatoire de référence, il y a une question simple qu'il pose et qui n'a bizarrement, elle, n'a jamais suscité la moindre critique, qui est, diriez-vous que vous êtes raciste ? Beaucoup, un peu, pas vraiment, pas du tout. Jamais personne dans votre université n'a critiqué cette question et qu'on ne définit pas le racisme. Vos amis du CEVIPOF, et je sais que vous analysez beaucoup, dans l'enquête Fracture française, ils demandent « Est-ce que vous trouvez qu'il y a beaucoup d'islamophobie en France ? Est-ce que vous trouvez qu'il y a beaucoup d'antisémitisme en France ?» Ils ne définissent pas l'islamophobie, alors même que vous savez bien que c'est un sujet très polémique. Est-ce qu'on parle de l'islam, de la religion, ou est-ce qu'on parle des gens ? Donc, je suis étonné que M. Dézé ne soit pas plein à l'égard de M. Tibéri ou de nos amis du CEVIPOF, alors même qu'ils ne définissent pas ces termes. Donc, je comprends en fait que cette critique, elle ne porte pas en réalité sur la manière de faire, puisque cette manière de faire est usuelle. C'était d'ailleurs celle qui existait en 98 chez nos confrères de CSA. Et bizarrement, à l'époque, France Culture n'avait pas fait une émission pour s'en indigner. Et je vois que M. Désir a des indignations. Non, mais je vois en tout cas que cette critique-là, en réalité,
les sondages sont menés.
Voilà, et ben, je pose la question, pourquoi d'éminents chercheurs de l'université française comme Vincent Tibère ou ceux qui font au CEVIPOF des enquêtes ne définissent pas les termes et ça ne pose pas de problème ? Et là, ça définirait des problèmes. C'est ridicule. Et monsieur Dézé, qui est spécialiste du RN, combien d'enquêtes, notamment le fameux baromètre de Kantar sur le rapport au RN, on pose des questions, est-ce que vous vous sentez proche du RN ? On n'a pas défini le programme et les positions du RN, et pourtant, il travaille dessus sur ce type d'indicateur, à ses yeux, là, semble-t-il, contestable, sans problème. Donc, il faut quand même être cohérent dans ses critiques.
Je vais faire réagir Alexandre Dézé. Par transparence, je précise que Vincent Tibéri a critiqué le sondage d'une manière publique, et notamment dans la revue en ligne The Conversation. Alexandre Dézé.
Oui, je tiens à rassurer François Cros, hein, je ne critique pas que les sondages de l'IFOP, mais tous les sondages que je peux critiquer, mais pas j'y passe pas non plus toute ma vie, heureusement. Et donc, dans le livre que vous avez eu la gentillesse de citer tout à l'heure, qui fait à peu près 200 pages, il y a quand même un grand nombre d'enquêtes, dont l'enquête Fracture française du CEVIPOF, qui est une enquête sur laquelle j'émets quand même un certain nombre de doutes méthodologiques relativement importants, qui portent notamment sur la question de la connaissance supposée d'un certain nombre de sujets politiques sur lesquels on interroge les personnes sondées. Et, par exemple, un exemple que je prends en cours avec mes étudiants, je vais prendre, je crois que c'est un chiffre approximatif, mais c'est à peu près ce chiffre-là, 44% des personnes interrogées, c'est une question qui porte sur la confiance dans les institutions politiques, 40% des personnes interrogées disent qu'elles ont confiance dans le Conseil économique, social et environnemental. Et le slide suivant, c'est pour nous apprendre qu'en fait, 4% des personnes interrogées connaissent cette institution. Donc comment on peut interroger des personnes sur la confiance qu'elles ont dans une institution qu'elles ne connaissent pas.
Une réaction à ce sondage, la députée européenne, je parle du sondage sur les musulmans et l'islam en France, la députée européenne Marion Maréchal Le Pen.
Je crois qu'il y a trois constats à tirer de cette enquête. Un, il y a manifestement de plus en plus de musulmans en France. Deux, ils sont de plus en plus radicalisés. Et trois, plus ils sont jeunes, plus ils sont radicalisés. Alors, que va-t-il se passer si nous ne réagissons pas? Que va-t-il se passer, finalement, si les courbes se prolongent? Eh bien, je vais vous le dire de manière très simple. La partition de la France, qui est déjà en cours, va continuer jusqu'au moment où nous allons nous retrouver face à des centaines de milliers, peut-être même demain et après-demain, des millions de musulmans radicaux qui, majoritaires, voudront évidemment appliquer la charia. C'est exactement cela qui va se passer. Et donc, après sondage, nous devons nous poser cette question. Est-ce que c'est le futur que nous voulons pour nos enfants?
Est-ce qu'il y a une irresponsabilité, François Cros, des responsables politiques dans la lecture et les pseudo-analyses qui sont faites des sondages qui paraissent?
C'est pas à moi de le juger, nous on est simple.
Alors, en l'occurrence, quand vous entendez une réaction comme celle-ci?
Nous, on considère qu'il y a des termes qu'on n'utilise pas, notamment le croisement de courbes. On est à 7% de musulmans, plus de 45% de catholiques, donc je pense que le croisement de courbes, il n'est pas pour sitôt. Deuxièmement, on n'utilise pas du tout le terme de radicalisation, puisque notre travail a une exception près où à un moment, on a demandé la proximité à l'égard du djihadisme ne porte pas sur la radicalisation. C'est un travail beaucoup plus complexe et nous ne sommes pas lancé là-dedans. Nous étions vraiment sur les pratiques religieuses et le rigorisme et aussi voilà toutes ces formes de tentation, de soutien à des formes radicales politiques. Mais pour le reste, comment vous dire, ça fait malheureusement partie du jeu politique de rebondir sur ce genre d'enquête de référence. Et vous disiez le rôle des sondages. Mais vous voyez, nos confrères de l'INED, dans la mesure où ils ont exclu 20 millions de personnes dans leur enquête, aujourd'hui, le chiffre de référence sur les musulmans, c'est 10%. Mais il est faux. Vous avez compris, vu qu'il est centré que sur les fractions les plus jeunes de la population. Nous, on a un chiffre beaucoup plus mesuré. Donc, nous, on considère que c'est pas nous qui attisons, en fait, ce genre de discours, vu que par rapport à d'autres enquêtes, on a des données beaucoup plus modérées.
C'est la faute des chercheurs, en quelque sorte, Alexandre Désé.
Sans doute. Sans doute. Non, mais encore.
Non, mais je pose la question.
Non, je ne pense pas que ce soit la faute des chercheurs. Je pense que il y a effectivement cette petite lutte symbolique entre d'un côté l'INED, l'INSEE et de l'autre côté l'IFOP, parce que c'est l'IFOP qui est l'un des rares instituts en France à faire ce genre d'enquête. Encore une fois, je crois que ça renvoie au problème majeur d'absence de possibilité en France de faire de la statistique sur la composition religieuse de la population. Mmh. Et comme le disait très bien François Cros tout à l'heure, le problème, c'est que ça nourrit un certain nombre de représentations fantasmatiques qui donnent lieu ensuite à usage politique. Donc peut-être que là, le législateur, les autorités politiques devraient réfléchir à une possibilité de collaboration entre différentes instances, y compris évidemment les instituts, pour essayer d'obtenir des chiffres qui soient un peu moins discutables que ceux qui me paraissent être discutables dans l'enquête de l'IFOP.
Je rappellerai juste
François Cros en quelques mots.
Que vous connaissez, qui est une référence, a parlé de déshérence dans laquelle sont tombées les enquêtes sociologiques quantitatives françaises sur l'objet religion depuis les années 2000. Ce n'est pas l'IFOP qui dit qu'il y a un déficit de statistiques publiques sur le sujet. C'est les meilleurs spécialistes et je crois qu'on sera tous d'accord pour dire que Pierre Bréchon en est.
Un mot cette fois-ci sur l'étude qui portait sur l'antisémitisme à l'université, commandée par le ministère de l'Enseignement supérieur. C'est le CEVIPOF qui s'en est chargé, qui a demandé à l'IFOP de mener plus exactement cette enquête. Parmi les questions qui ont fait polémique cette fois-ci dans cette étude, quand vous pensez à l'antisémitisme qui existe en France, c'est donc la question qui était posée notamment aux enseignants, diriez-vous que les juifs ont une part de responsabilité? Comment vous jugez a posteriori, François Cros, le fait que ce type de question puisse voir le jour dans certaines études de votre institut de sondage?
Contrairement à l'enquête islam qui a été portée, les questionnaires ont été rédigés par l'IFOP, ça c'est une enquête qui est produite par le CEVIPOF, qui est le centre d'études de la vie politique française, qui est, je pense, au-dessus de tout soupçon en termes d'arrière-pensée politique.
Et c'est l'IFOP qui la met en œuvre, hein, pour...
Nous en sommes que l'administrateur. Donc, ça y est, une petite confusion dans l'esprit des gens, mais ce n'est pas du tout nous qui sommes ni les rédacteurs du questionnaire, ni l'analyste.
Qui l'administre, ça veut dire que c'est vous, en somme, qui mettez en place le dispositif...
De collecte des données et de traitement, mais ensuite, c'est nos éminents collègues, notamment Jean Chiche et Anne Muxel, qui sont des sommités dans leur domaine, mm-hmm. qui ont rédigé le questionnaire et qui... On choisit ces questions à partir d'une problématique qui était la question de la mesure dans l'enseignement universitaire de l'antisémitisme dans un contexte, il me semble, hein, faudrait revoir exactement les motifs précis de cette enquête. Je ne travaille pas directement dessus, mais dans le contexte, j'imagine, du poste 7 octobre. Donc, réflexion-là qui est intéressante, puisqu'au fait, on a, comme M. Dézé d'ailleurs, tout un ensemble de personnels enseignants très hauts qui sont habitués à faire un travail d'enquête, mais là, au fait, d'acteurs de l'enquête, ils en deviennent les sujets. Et on sent qu'à ce moment-là, ça suscite beaucoup plus de craintes et beaucoup plus de réactions, et ils se retrouvent confrontés, finalement, les problèmes que nous, instituts, nous avons au quotidien quand nous essayons de convaincre des gens de répondre à nos enquêtes, et ben là, ils se retrouvent, les chercheurs, dans la même situation, c'est-à-dire qu'ils se rendent compte à quel point, sur des publics, on va dire, très haut de gamme, très conscient de toute la moindre des enjeux, de la moindre formulation, c'est très compliqué. Des professeurs d'université, eh ben, on voit que eux ne veulent pas à ce moment-là passer de l'autre côté du microscope.
Est-ce que vous comprenez, Alexandre Dézé, que les présidents d'université puissent refuser, aient refusé en l'occurrence pour bon nombre d'entre eux, de diffuser un sondage contenant une question comme celle-ci, que je rappelle, quand vous pensez à l'antisémitisme qui existe en France, diriez-vous que les Juifs ont une part de responsabilité?
Oui, on pourrait également évoquer d'autres questions hein, qui étaient dans ce questionnaire. Les Juifs sont-ils les Français comme les autres? Les Juifs ont-ils trop de pouvoir? De manière générale, avez-vous une bonne image des Israéliens en tant que peuple? Je ne sais pas d'où sortent en fait ces questions.
Elles voilà. existent depuis 1947 et le peuple les pose alors, aux populations générales.
Pour le coup, je trouve que ça n'est pas un bon argument parce que je pense que ce sont des mauvaises questions et que si on les pose depuis aussi longtemps, on aurait dû avoir le temps de les corriger. Il faut savoir une chose, c'est que le ministère a fait fermer cette enquête. Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace a fait fermer cette enquête. Cette enquête est close. Elle est close pour plein de raisons. D'abord parce qu'il y a eu une mobilisation universitaire massive. 4000 personnes ont signé le texte de pétition qui a été produit par la LDH en collaboration notamment avec l'Observatoire des atteintes à la liberté académique. Il y a eu une pluie de communiqués, un courrier effectivement qui a été adressé par France Université au ministère. Et en fait, cette enquête était maintenant ni faite ni à faire. Elle violait le principe de neutralité du service public puisqu'il était posé des questions aux fonctionnaires qui étaient complètement ahurissantes, hein, de nature politique, de nature religieuse. Il y avait un risque...
De nature intime également.
De nature intime, évidemment. Il y avait un problème de... Enfin, un risque en tout cas de réidentification des répondants relativement important. On demandait le sexe, l'âge, l'académie de travail, le type d'établissement, fonction, le corps d'appartenance, pardon, le niveau de diplôme, le code postal, la proximité partisane, en fait, des répondants, ce qui fait que certains détracteurs de ce sondage ont dit voilà, c'est une entreprise de fichage, en fait, des universitaires. Et puis, comme vous l'avez rappelé, il y avait un certain nombre de questions, quand même, qui posaient un grand nombre de problèmes. Donc, il est heureux que ce sondage ne soit pas réalisé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un problème d'antisémitisme à l'université, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas enquêter sur l'antisémitisme à l'université, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler avec François Cros. Et ce qu'on souhaite, je sors d'une réunion cet après-midi à Sciences Po justement, où on s'est quitté sur la volonté de faire collaborer tout le monde pour justement tenter d'y voir un petit peu plus clair dans ce qu'est l'antisémitisme à l'université, trouver un dispositif d'enquête qui soit vraiment ajusté, qui mêle le quanti, mais également le quali, peut-être le
quantitatif et le qualitatif.
Oui, pardon, exactement.
Merci beaucoup à tous les deux, François Cros, directeur du pôle politique de l'IFOP, Alexandre Dézé, professeur de sciences politiques à l'université de Montpellier. Merci à vous deux d'être venus débattre à l'antenne de France Culture. Merci également à celles et ceux qui ont préparé cette émission. Diane Devancet, Stéphanie Villeneuve, Juliette Mouélic, Antoine Héral. À suivre après le journal, le service militaire redevient-il acceptable ?